Alors, je vous propose de réfléchir aujourd'hui à la deuxième partie de cette prière que nous appelons le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et je terminerai en commentant très brièvement la conclusion que nous appelons du mot doxologie, à cause du mot grec doxa, dont un des sens est gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Donc je vais parler du pain de ce jour, du pardon demandé et donné, et de la tentation, avec justement la tentation de la nouvelle traduction choisie par l'Église catholique et que notre Église a également adoptée. Alors commençons par le pain. Certains d'entre vous le savent peut-être. La phrase grecque pose un énorme problème de traduction, parce que le mot qui définit ce pain, le mot qu'on a traduit par de ce jour, le pain de ce jour, c'est un mot qui n'existe que dans le Nouveau Testament et que à cet endroit-là. Ça porte un nom, ces mots-là, ça s'appelle des apax. C'est un apax. Ce mot, epiousios, n'existe nulle part ailleurs en grec. On ne le trouve que là, dans le Nouveau Testament et seulement dans les deux textes du Notre Père, pour définir le pain. Alors pour essayer de le comprendre, ou plutôt de deviner ce qu'il veut dire, eh bien les linguistes ont décomposé ce mot. Epiousia, ces deux mots veulent dire quelque chose, mais ils veulent dire, chacun des deux mots veut dire plusieurs choses en fait. Donc ils ont trouvé plusieurs possibilités. Notre pain nécessaire, notre pain pour ce jour-ci, ou bien, et il semble aujourd'hui s'accorder pour dire que c'est la plus probable, notre pain pour le jour qui vient, c'est-à-dire pour demain. Et peut-être même, ça c'est une possibilité qui moi me plairait bien, notre pain à nous, notre part de pain et rien de plus. La traduction qui nous est proposée, notre pain de ce jour, elle met l'accent sur deux éléments importants. Ce serait une référence à la manne, ce qu'on a entendu dans le premier texte, la lecture de l'Exode. Cette nourriture dont l'Exode nous dit que c'était un don quotidien de Yahvé à son peuple au désert. Et c'est vrai que c'est un don extraordinaire, pas forcément par sa provenance. Certains préhistoriens pensent que ce mythe aurait pour origine une sorte de résine comestible. On n'en sait rien du tout, mais c'est possible. Mais surtout, par ce qui le caractérise, ce don extraordinaire. Chacun reçoit ce dont il a besoin pour vivre, rien de moins et rien de plus. Cette nourriture ne se conserve pas. On ne peut pas faire de provision et encore moins, bien sûr, l'échanger ou en faire commerce. Il n'en est même pas question. C'est en fait la nourriture idéale, celle que toute l'humanité devrait avoir. Recevoir au lieu que tant de personnes en manquent et que tant d'autres en consomment trop et en fassent commerce. Et pour nous aujourd'hui, c'est un appel à la modération, pas toujours facile à entendre, et aussi en même temps un appel à la confiance, tout aussi difficile à entendre, puisqu'il s'agit en fait de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger plus tard. Alors on sait bien que c'est déjà difficile quand on vit seul ou entre adultes, mais évidemment impossible quand on a des responsabilités, en particulier des enfants. Et si le plus probable, comme les linguistes semblent penser, c'est que la formule veut dire « notre pain pour le jour qui vient » ou même « notre pain à venir », pourquoi avoir adopté notre pain de ce jour ? Eh bien, comme je l'ai dit, cette prière était certainement déjà en usage dans les communautés quand elle a été rédigée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Et il est probable qu'elle ait été dite en particulier juste avant ou pendant la célébration de la scène. Un peu comme nous le faisons nous-mêmes d'ailleurs. Et du coup, la formule « notre pain de ce jour » va prendre un sens supplémentaire, un sens un peu différent. Elle évoque pour chacun ce qu'il va vivre quelques instants plus tard, sa propre participation à la scène, tout en mettant l'accent, avec le nôtre toujours, sur la dimension communautaire de ce partage. Eh bien, je crois que ce sont ces deux raisons d'ailleurs qui font que lorsque nous célébrons la scène, nous disons le Notre Père, nous l'incluons dans la liturgie de la scène, au lieu de le dire à la fin de la prière fraternelle qui conclut le culte, ce qui est tout à fait évidemment approprié dans les cultes sans Sainte-Cène. Et alors, la suite de notre texte peut paraître surprenante. On était dans le refus de la thésaurisation et de l'échange. Il était donc tout à fait normal, oui, de faire à ce moment-là acte de générosité en effaçant les dettes de nos frères et sœurs humains, comme nous aussi nous remettons nos dettes. Alors, je ne sais pas comment ça se passait en vrai, hein. Heureusement que dans les premières communautés, ils mettaient tout en commun, parce que autrement, je me demande si vraiment, au moment du Notre Père, toutes les dettes étaient vraiment effacées le dimanche. Peut-être, j'espère. Mais alors, pourquoi avoir traduit « dette » par « offense » ? Le texte de Marc se réfère à une comparaison selon laquelle les fautes des humains sont autant de dettes qu'ils contractent envers Dieu et pour lesquelles Dieu pourrait leur en vouloir. Et Luc le dit encore plus clairement en utilisant le mot « péché » en corrélation avec « dette ». Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quelqu'un, à quiconque nous doit quelque chose. Dans le Premier Testament, le péché était un acte ou une parole dont on pensait qu'il s'opposait à Dieu ou à sa loi. Mais, et là je vais citer le théologien Karl Barth, en identifiant le péché, c'est-à-dire le manque d'amour envers autrui, à une dette, on affirme que nous, frères de l'homme Jésus-Christ, nous manquons à ce que nous devons à Dieu. Et la traduction de ce mot, dette, par quoi faut-il le traduire ? Péché, dans un cas il y a dette, dans l'autre il y a péché. La traduction, elle a posé en français, elle a posé problème depuis le XVIe siècle. Au fil du temps, on a trouvé faute au pluriel, manquement au pluriel, forfait tout au pluriel, méfait, péché, offense. Calvin l'a utilisé au début, et puis à partir de 1555, il est revenu au mot dette. Et c'est cette dernière traduction, offense, qui a été retenue pour la version actuelle, la version œcuménique. Alors, je voudrais dépasser maintenant un petit peu, essayer de dépasser ces querelles linguistiques et théologiennes. Elles sont importantes parce que les mots ont du sens et une portée théologique. Mais je voudrais juste vous faire remarquer que la version actuelle, en tout cas, comme j'ai déjà essayé de le souligner la semaine dernière, est réellement libératrice. Parce que dans la formule, on pourrait presque les supprimer complètement, ces dettes, péchés ou offenses. On pourrait dire « pardonne-nous comme nous pardonnons ». En dernière lecture, vous l'avez entendu, merci beaucoup, d'une très belle lecture, nous avons entendu le psaume 130. Cette réflexion sur la faute et le pardon, très célèbre, en particulier en latin, hein, à partir de ses premiers mots en latin, le « de profundis », c'est ça qu'on a entendu. Et ce psaume nous dit que, et je le cite, « le pardon se trouve auprès de Dieu pour que l'homme le craigne, c'est-à-dire pour qu'il croie en lui et pour qu'il sache, je cite, qu'auprès de lui, la libération abonde. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Moi, j'aime cette phrase parce qu'elle nous unit dans un même mouvement quelque chose en quoi nous avons tellement de mal à croire, le pardon, justement, l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et quelque chose que nous avons autant de mal à faire, nous-mêmes, pardonner. Et quand on dit « comme nous pardonnons », eh bien, nous pouvons le dire en essayant d'être dans un état d'esprit totalement, si on peut, c'est difficile, détendu, et en essayant de le faire en même temps que nous le disons. Et je pense que c'est ce que nous faisons souvent. En grammaire, on parle d'aspect performatif d'une forme verbale. Dire, c'est faire. En demandant pardon, nous nous savons déjà pardonner. Et en disant que nous pardonnons, nous sommes déjà en train de pardonner. Alors, dans l'idéal, ce serait une fois pour toutes comme un vrai pardon, comme le pardon de Dieu. Mais dans notre réalité psychologique, les vieilles rancunes peuvent revenir, bien sûr, comme d'ailleurs les vieux remords. Et le plus souvent, elles reviennent, ces vieilles rancunes, et ce n'est pas facile à vivre. Mais avec le Notre Père, sans être obligé de le réciter trois fois par jour comme les premiers chrétiens, nous sommes invités à pardonner à nouveau, à pardonner, à repardonner, jusqu'à ce que ça devienne une réalité, jusqu'au jour où on se dit « Ah tiens, je ne lui en veux plus, ça fait du bien ». Et puis je vous rassure, comme entre-temps on a trouvé d'autres bonnes raisons d'en vouloir à quelqu'un d'autre, eh bien on n'a plus qu'à recommencer. Et si nous avions la tentation, on arrive au mot qui peut-être pourrait fâcher, j'espère que non, la tentation de résister à ce mouvement libérateur. Il faudrait à nouveau nous en remettre à Dieu pour trouver la paix. Alors certains, y compris parmi nous, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, mais parmi nous je le sais, trouvent que l'Église protestante unie a adopté un peu trop rapidement la nouvelle version proposée par Rome. Ne nous laisse pas entrer en tentation au lieu de ne nous soumet pas à la tentation. Et leurs arguments ne sont pas du tout infondés. Parce que la phrase grecque dit, à peu près, avec un subjonctif, que tu ne nous introduises pas dans l'épreuve. Ou bien elle pourrait vouloir dire aussi que nous ne soyons pas introduits dans l'épreuve, mais par toi. Bon, donc il y a quand même, quelque part, l'idée d'une volonté divine, peut-être. Mais vous voyez bien la différence, du coup, elle est effectivement très importante. Soit l'épreuve, la tentation ultime, la tentation, pas les tentations, la tentation du découragement, du renoncement à la foi, du renoncement à la vie. La tentation, soit cette tentation existe indépendamment de Dieu. On va pas aujourd'hui voir dans ce cas-là quelle en serait l'origine, parce qu'on passerait la journée. Mais soit elle existe indépendamment de Dieu, et nous sommes libres d'y entrer ou non, d'entrer en tentation ou d'y résister. Soit c'est Dieu lui-même qui nous fait subir cette épreuve, qui nous y soumet, comme on disait, histoire de voir comment on va s'en sortir. Et évidemment, dans ce cas-là, ça remet un petit peu en question cet amour divin auquel nous voulons croire. Alors en fait, les deux sens sont alternés, selon les époques, les traductions. Et en réalité, le débat n'a jamais été, ou en tout cas n'est pas aujourd'hui, n'a pas été juste avant la décision, entre catholiques et protestants. Il a traversé toutes les confessions. Dans les deux confessions, il y avait des gens pour dire « c'est la volonté de Dieu, enfin, Dieu nous soumet à la tentation », et puis c'est écrit, et d'autres pour dire « non, nous sommes libres d'y entrer ou pas ». De toute façon, ça c'est vrai, mais la tentation ne vient pas de Dieu. Et par exemple, le pasteur Louis Pernot proposait en 2011, donc avant la décision, mais il n'y a pas si longtemps, des traductions très proches de celles qu'on dit aujourd'hui. Et en fait, on sait que depuis le début, cette formule dans le Notre Père a posé problème, y compris dans l'Église, puisque même dans le premier chapitre de l'épître de Jacques, la lettre de Jacques qui se trouve dans le Nouveau Testament, hein, Jacques, probablement le frère de Jésus, le premier responsable et directeur chef de l'Église, des communautés, voilà. Je le cite, « Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. » Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une solution. Je n'ai pas de réponse. C'est la preuve que le débat est aussi ancien que le Notre Père, voilà, et que les conceptions théologiques coexistent, y compris dans le Nouveau Testament. Alors on comprend mieux, en tout cas moi, le pourquoi de la nouvelle traduction. Et pour ma part, elle ne me choque pas. Parce que, à vrai dire, ce Notre Père que nous disons, n'oublions pas, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est une version composée, composite, à partir de ces deux textes de Matthieu et de Luc, et même en réalité, à partir de trois textes. Parce que la formule finale que je citais tout à l'heure, la formule finale que nous utilisons, elle vient d'un texte à peine plus récent que les évangiles, qui ne se trouve pas, c'est vrai, dans la version canonique, dans la Bible, mais un texte fondamental. Un petit livre écrit en grec avant l'année 150, on pense entre 70 et 150. Un petit livre qui a été intitulé ensuite probablement la Didaké, et quelquefois même la Didaké, l'enseignement des 12 apôtres. Et c'est un petit livre en fait de liturgie, d'instruction pour les chrétiens. Un petit livre qui donne de précieuses informations sur les liturgies des premiers siècles, sur la manière dont les premiers chrétiens priaient et célébraient. Et il n'y a rien de mystérieux dans ce que je vous dis. Vous tapez Didaké, C-H-E, sur Google et vous allez avoir tout le livre. Et c'est passionnant. C'est passionnant, bien sûr. C'est dans ce livre que le Notre Père se termine ainsi. « Mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. » Alors là aussi, cette formule que d'autres confessions ne disent pas, ou pas de la même façon, divise, a divisé, y compris d'ailleurs chez les protestants quelquefois. Mais elle est belle cette formule, et je terminerai là-dessus, elle est importante. C'est à nouveau une manière de s'en remettre à Dieu, y compris pour lutter ou essayer de lutter contre le phénomène du mal qui, depuis toujours, on le sait bien, depuis Job en particulier, met à l'épreuve la foi humaine dans un Dieu bon. Et bien sûr, ça, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, pour ma part, j'aime cette conclusion doxologique. Je pense qu'elle vient inscrire le Notre Père, réinscrire justement, insister sur l'inscription du Notre Père dans le contexte de son élaboration. Et aussi et surtout qu'elle participe à ce sentiment de libération que le Notre Père peut nous apporter, à cette paix que nous pouvons éprouver en le disant ensemble, en disant ensemble avec la plus grande simplicité, que d'une manière ou d'une autre, pour survivre, pour vivre, pour nous sentir en accord avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs humains, nous avons besoin de Dieu et nous nous en remettons à lui. Amen.